Avant de commencer, je voulais vous dire à chacun d'entre vous, merci. Merci pour ces 3 années où je vous ai rendu visite bien souvent et il y a de grandes choses qui se sont passées avec vous. Vous savez, il y a plusieurs moments, bon, il y en a beaucoup, j'ai vu que beaucoup d'entre vous disent quand est-ce que tu viens, quand est-ce que tu viens. Mais moi, je suis quelqu'un, j'aime bien que Dieu me confirme certaines choses. J'écoute la parole, j'écoute ce que Michel prêche souvent, j'écoute ce que vous, chacun d'entre vous, vous me dites. Je commence à connaître chacun d'entre vous particulièrement. Et vendredi, je vous cache pas que le message que Michel a donné, ça m'a carrément traversé le cœur. Oui, je pense que ce que dit dans les Actes des Apôtres, c'est la réalité. Il est temps pour moi, je pense, de retrouver mes frères et mes sœurs, de vivre avec eux, de partager beaucoup de choses avec eux. Et c'est dans toute humilité que ce matin, je vous demande, est-ce que vous aimeriez tous que je vienne habiter avec vous, vous rejoindre mes frères, mes sœurs? Je vous aime de tout mon cœur. Pas évident, hein. Vous savez, je pensais à, il est pas là ce matin, je pensais à Olivier. Il y a quelques mois, c'était un petit jeune qui venait vous rejoindre. Là, c'est un peu plus vieux. Vous savez, j'ai vécu, vous connaissez mon témoignage, je vais pas vous dire d'où je sors, d'où je viens. Ce qui est important, c'est ce que le Seigneur a fait pendant ces 3 ans. Comment il a fait croiser les choses. Comment il m'a fait grandir. Je vous cache pas que vous êtes pas, vous en faites partie, hein. Mais je voulais vous l'annoncer au premier de l'an. Puis j'ai dit non, pourquoi le premier de l'an? J'ai dit j'ai pas envie de faire comme tout le monde, avoir une date butoir, tel jour, tel moment. J'ai dit à Michel, on a parlé hier après-midi. J'ai dit non, je pense que c'est le moment, c'est maintenant, c'est le moment de Dieu. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est Dieu qui a choisi que ce matin je vous l'annonce. Et je suis content, vous pouvez pas vous imaginer. Que Dieu vous bénisse encore tous. Amen.
Un peuple en chemin qui vit pour un lendemain. Nous n'apprenons plus la haine. Nous ne faisons plus de peine. Ce chemin est merveilleux car il conduit vers les cieux. Où est notre patrie, où se trouve la vraie vie? Je suis déjà en chemin, lève-toi avant tout et bien, car notre Dieu est bon dans ce monde de merveille. Nous ne sommes plus pareils, le chemin du paradis. Apprends le bonheur de tout donner, de vouloir tout partager, dans la paix, dans la joie, par notre vie de foi. Ce jour est venu enfin, Jésus bénit l'œuvre de nos mains, car notre Dieu dans ce monde des merveilles, nous ne sommes plus pareils. Le chemin du paradis est pour vous aussi.
Gloire à Dieu, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Gloire à Jésus, c'est magnifique. Que Dieu te bénisse, Francis, c'est très beau, gloire à Dieu. et il te bénit. Tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels et cela se reporte sur la terre. Gloire à Dieu. On va faire deux lectures ce matin, une dans le psaume 139 et une dans le psaume, dans le psaume 139, 14 et une dans Éphésiens après. C'est David qui s'écrit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Dans Éphésiens 3, 20, où il est, je pourrais même le dire par cœur, je cherche là, mais je vais le dire par cœur. C'est dit. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous. Quand on demande aux chrétiens quelle est la puissance qui agit en nous, ils disent c'est le Saint-Esprit. C'est faux. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu habite en nous. Mais Dieu qui habite en nous peut faire par la puissance qui est en nous, c'est-à-dire pas par lui, sinon ce serait écrit Dieu peut faire par lui-même au-delà de ce que nous prions et de ce que nous demandons. Non, il est en train de dire Dieu peut faire par cette puissance qui agit en nous, qui est notre propre esprit, qui est réveillé maintenant que nous connaissons l'Évangile. Dieu peut faire par notre esprit bien au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Et David s'écrit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Nous avons été créés d'une façon merveilleuse. Et ce matin, je suis très excité de vous apporter le message que je dois vous donner. Parce que c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de magnifique. En effet, ce message, si vous l'écoutez bien, il va vous aider à comprendre quelque chose de vital au sujet de vos deux états d'esprit. Et nous savons, je vous ai déjà enseigné 10 000 fois, que nous sommes des esprits et nous sommes venus habiter dans des corps. Nous vivons donc dans un corps. Notre corps, c'est pas nous, c'est pas moi. Je suis content d'avoir celui que j'ai, bien qu'il y ait un peu de ventre en ce moment. Je suis content d'être dans le corps que j'ai. Vous devez être content, satisfait et louer Dieu avec le corps que vous avez. Même si vous êtes impotent, même si vous êtes souffrant, louez Dieu en toutes choses, la Bible nous dit. Amen. Hein, ne murmurez pas, mais louez le Seigneur. Élevez vos louanges devant Dieu. Ce temps sur la terre est court. Et nous sommes en train de passer un examen. Si vous entrez dans la louange au sujet de ce corps qui peut être déglingué ou peut-être qui a vieilli et qui répond plus tout à fait aux exigences que vous aviez ou aux possibilités que vous aviez autrefois, louez Dieu pour ça. Ça fait partie du processus. Et Dieu se réjouit de voir des gens, des esprits qui louent le Seigneur en toutes circonstances, pas seulement quand tout va bien. Donc, nous sommes des esprits habitant dans un corps, nous vivons dans un corps. Mais peu de chrétiens savent que si nous sommes un esprit, notre esprit, votre esprit, lui, il possède deux fonctions. Deux fonctions. Beaucoup, ne sachant pas cela, sont victimes de leur ignorance. L'ignorance, c'est quelque chose de terrifiant. Et voilà pourquoi la Bible nous enseigne et nous pousse à apprendre, à savoir. Apprenez de moi, dit le Seigneur, vous devez apprendre à vous servir des deux fonctions de votre esprit, comme vous avez appris quand vous étiez petit, à vous servir de vos jambes, à vous servir de vos bras, à vous servir de tout ce que vous êtes en fait. Parce que si vous ne savez pas comment vous servir des deux fonctions de votre esprit, vous allez les confondre. Et alors, ces deux fonctions ne vont pas travailler de manière synchrone, ce qui fera de vous ce qu'on appelle un déséquilibré. Un déséquilibré. Alors, pour que votre vie soit en harmonie, vous devez apprendre quelles sont les fonctions diverses des deux parties distinctes de votre esprit. La paix intérieure existe chez ceux qui savent gérer les deux parties de leur esprit. La santé et l'abondance heureuse découlent de cette connaissance qui est mise en pratique, parce que vous pouvez connaître et ne pas mettre en pratique. Là, c'est comme si vous faisiez un cataplasme sur une jambe de bois, ça ne sert à rien. Vous avez une fonction de votre esprit qui est la suivante. Elle prend soin, c'est votre esprit, une partie de votre esprit prend soin de tous vos organes vitaux, même pendant votre sommeil. N'est-ce pas? Voilà pourquoi votre sommeil doit être le sommeil du juste. Le sommeil doit être celui du chrétien qui se repose de ses bonnes œuvres, de ses bonnes œuvres de disciple qu'il a faites, qu'il a produites pendant sa journée, de ses bonnes œuvres d'amour. Alors il y a un ordre établi par Dieu. Vous allez vous reposer des bonnes œuvres d'amour que vous avez pratiquées premièrement dans la famille, vis-à-vis pour votre famille, deuxièmement pour votre communauté chrétienne, troisièmement pour votre travail et vos collègues et toutes les gens que vous rencontrez, et quatrièmement pour votre pays. Vous me direz, ça fait très américain. Je m'en fiche si vous pensez que ça fait très américain. Ce sont des lois universelles, c'est comme ça. Si on s'occupe pas bien de sa famille, alors les familles vont de travers, et si les familles vont de travers, les villages vont de travers, tout va de travers, et finalement le pays va de travers. Donc ça commence par la famille. Si vous n'êtes pas capable de vous occuper de votre famille, alors, bon, on va à la catastrophe. Et voilà pourquoi le diable aujourd'hui essaye de souiller la famille encore davantage en faisant, en créant cette loi qui va être, ça va être une loi qui va permettre que des gens de même sexe se marient, bon, qui veulent vivre ensemble, mais ils le vivent déjà, ils vivent déjà ensemble. Mais se marier, c'est une simagrée, c'est une insulte à Dieu, c'est parce que le mariage est une institution divine. La famille est directement attaquée. Et par d'autres choses aussi. Mais ça, c'est ce qui nous touche le plus, puisque c'est là où on va dans le mois prochain, hein, dans cette horreur. Cet amour pour notre famille, pour la communauté, pour son travail, pour notre pays, cet amour doit être un amour qui construit, un amour qui agit positivement selon la parole de Dieu. Pas selon nos idées, selon ce que Dieu dit, parce que c'est lui le créateur, c'est lui qui sait ce qui est le mieux. Donc on écoute ce qu'il dit et on fait. À partir de là, c'est vraiment l'amour. Le reste, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. C'est du sentimental, c'est des impressions, c'est des sensations, mais c'est pas de l'amour. C'est comme du Canada Dry, c'est pas du champagne. Ça y ressemble, mais ça n'en est pas. Une telle personne qui donc manifeste un amour qui est réglé par la parole de Dieu, une telle personne va dormir tranquille. Va dormir tranquille. Avec la conscience du devoir accompli. Et des pensées qui sont positivement maîtrisées selon la vérité biblique, il va dormir. Pourquoi ? Parce qu'il se sera fatigué au service de sa famille, fatigué au service de la communauté, fatigué dans son travail, et il aura droit à être fatigué pour son pays, pour sa nation, pour améliorer les situations dans la commune, etc. Et alors, il va être fatigué, il va se reposer du sommeil du juste, parce qu'il sera fatigué d'une bonne fatigue. La partie consciente de l'esprit d'une telle personne s'endort. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai parlé d'une partie qui est inconsciente, hein, qui règle tout, qui gère tout, votre respiration, votre cœur et tout ça, et même pendant votre sommeil. Puis vous avez la partie consciente. C'est ça qui s'endort. L'autre, elle s'endort pas, elle continue à faire battre votre cœur. La partie inconsciente continue à faire circuler votre sang, à régler votre température, tout ça, elle s'en occupe tout le temps. Mais votre partie consciente s'endort. C'est-à-dire qu'elle perd connaissance de ce qui l'entoure. Mais qu'est-ce qui se passe là? En fait, l'esprit conscient monte vers Dieu tel un oiseau. C'est ce que Ecclésiaste 10, 20 nous enseigne. Et peu de gens l'ont vu. Il est dit là, « Ne maudis pas le roi, c'est-à-dire l'autorité, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. » Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, voilà, dans la Bible, le Saint-Esprit, il est comparé à une colombe, un oiseau. Et l'esprit humain est aussi comparé à un animal ailé, à un oiseau. Et l'esprit humain, comme l'oiseau, emporte tes propos, emporte tes actions. Pendant ton sommeil, il va devant le trône de Dieu. Et la partie de ton esprit dont tu n'as pas conscience, ton subconscient, il y en a qui disent le subconscient, s'occupe de gérer ton corps pendant ton sommeil, ta respiration, tes battements de cœur, il nettoie ta mémoire en te faisant rêver, c'est la soupape qui soulève et toutes sortes de choses s'en vont, il contrôle ta température, etc., ton subconscient, ta partie subconsciente, ta partie dont tu n'es pas conscient. Et pendant ce temps-là, tu dors, c'est-à-dire tu n'es plus conscient, ton conscient, il est parti. Ton esprit, cette partie de ton esprit, te quitte et monte vers Dieu et rapporte tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, tout ce que tu envisages, toutes tes intentions, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, ça rapporte tout cela devant Dieu. Ce que tu fais consciemment dans ta journée, le bien et le mal, la nuit, pendant ton sommeil, ton esprit conscient te quitte, tu n'es plus conscient de ce qui est autour de toi, et il monte vers Dieu, et il rend un rapport. La partie consciente de ton esprit monte vers Dieu, rapporte tout à l'Éternel, et cela a immanquablement des conséquences bonnes ou mauvaises selon tes actes de la journée précédente et selon les paroles de ta journée précédente. Donc, vous l'avez compris, notre esprit, votre esprit a deux fonctions, dont une dont vous êtes conscient et l'autre dont vous n'êtes pas conscient. La partie dont vous n'êtes pas conscient a une très grande importance. Comme je vous le disais, elle règle votre respiration, votre circulation sanguine et toutes ces choses. La partie consciente de votre esprit vous guide dans vos contacts avec l'environnement au moyen des cinq sens. C'est consciemment que vous apprenez sans cesse, sans cesse, sans cesse. Quand je dis que vous apprenez pas à écrire et à lire sans cesse, mais une fois que, pendant que vous apprenez à lire et à écrire, vous apprenez des tas d'autres choses. On apprend par les expériences, on apprend par toute la journée, tout le temps on apprend quelque chose, tout le temps. Alors il y a des gens qui apprennent que des bêtises, c'est vrai. Et puis il y en a d'autres qui s'appliquent, qui dirigent leur esprit, leur conscient à apprendre des choses qui sont constructives. Donc, consciemment, vous apprenez sans cesse, et cela grâce à vos cinq sens. Parce que vous êtes dans un corps. Et pour que cela parvienne à votre esprit conscient, ça passe par votre corps, c'est-à-dire par vos sens, votre ouïe, vos yeux, tout ça. Bon. Est-ce que vous voulez en savoir plus ou est-ce que j'arrête là? Vous voulez savoir plus? Ça vous intéresse? La partie subconsciente de votre esprit est très sensible aux suggestions extérieures. J'explique. Là, votre partie subconsciente, qui est inconsciente en vous, est très sensible et ça se laisse contrôler. Cette partie inconsciente se laisse contrôler par les suggestions. Toujours. Alors, le subconscient, c'est quoi? Il y a des livres qui expliquent qu'est-ce que c'est le subconscient. Le subconscient, c'est la partie de votre esprit dont vous n'avez pas conscience. Mais qui influence votre comportement. Ça, vous trouvez dans un dictionnaire Larousse, hein. C'est pas de la parapsychologie à deux balles. Et une suggestion, c'est quoi une suggestion? C'est une action de quelqu'un, c'est une parole de quelqu'un qui vous fait penser, qui vous inspire. Votre subconscient est sensible aux suggestions. J'étais avec un ami en Suisse. On était en train de boire un très bon vin rouge, magnifique, au coin de la cheminée. Il était là devant, et il y avait deux, trois amis qui étaient là, et on parlait de choses et d'autres. Et tout à coup, quelqu'un, une femme, dit à mon ami, « Mais t'es tout pâle. Mais t'es vraiment, est-ce que tu te sens bien? T'es pas bien, là ?» Mon ami était tout rouge, il était devant le feu. Il était bien, il buvait un bon vin, il y avait une bonne ambiance. Eh bien, en 30 secondes, il est devenu tout pâle, il s'est senti mal. Je l'ai vu de mes yeux, sensible à la suggestion de quelqu'un de malfaisant. C'est curieux, hein? Quelqu'un qui voulait le faire sentir mal. J'étais impressionné de voir ça. Et c'est comme ça dans notre vie, tout le temps. Notre subconscient est sensible aux suggestions. Qu'est-ce que c'est une suggestion? C'est une action ou une parole qui vient de quelqu'un et qui vous fait penser, qui vous fait réfléchir, qui vous inspire. Alors votre subconscient n'analyse absolument pas les paroles ou les actes qui sont faits en face de vous. Votre subconscient ne les classe pas, il ne les évalue pas, il ne cherche pas à savoir si une parole est vraie ou fausse. Il est comme ça, il est passif. Passif. C'est votre conscient qui analyse. C'est votre conscient qui classe, qui évalue si une chose ou une parole est vraie ou fausse. Si une chose est bien ou mal. C'est votre conscience, votre conscient. Donc, nous avons tous ces deux parties. Notre esprit est fait de ces deux parties-là. Je vais vous dire ça clairement. Si votre subconscient reçoit ou accepte une idée fausse, il va agir comme si cette idée ou cette chose était vraie. Et toute votre vie va en être déséquilibrée. Il vous semblera juste et raisonnable de vivre même des choses nuisibles pour vous, pour votre famille, pour votre communauté, pour votre entourage, dans votre travail, et même pour le pays. Parce que quand la famille ne va pas, le pays ne va pas non plus. Bon, si une famille ne va pas, ça va. Mais en ce moment, vous avez vu, il y a à peu près 5 divorces sur 4. Dieu nous a très bien créés, mes frères et sœurs. Il n'a pas fait d'erreur. Avec la partie consciente de votre esprit, avec votre conscience, si elle est alimentée par la parole de Dieu, avec votre conscient, vous avez le pouvoir de rejeter les suggestions des personnes que les personnes vous font. Ce que les autres vous suggèrent n'a absolument aucun pouvoir sur vous, à moins que vous les acceptiez. Si consciemment vous dites « Ah ben oui, c'est vrai », eh ben vous êtes foutu. Que se passe-t-il si votre conscient accepte de croire une chose qui n'est pas selon Dieu, selon la loi à laquelle nous devons obéir? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la chose fausse devient le mouvement de votre esprit. Et le mouvement de votre esprit va diriger votre corps. Et puis vous serez ce qu'on appelle quelqu'un qui manque le but. À partir de là, vous vous auto-suggestionnez. Vous n'avez même plus besoin des autres pour vous convaincre. Mais vous vous confortez, vous vous donnez des raisons. Elles vous semblent tout à fait raisonnables et vous n'arrivez même pas à comprendre pourquoi les autres ne vous comprennent pas. Parce que vous êtes impressionné, parce que votre conscience, vous avez fait fi de votre conscience, vous avez écouté des suggestions qui étaient fausses, du diable ou des gens. Par exemple, je vais prendre mon exemple. Si quelqu'un vient, même parmi vous ou d'autres, si quelqu'un vient me dire que mes prédications ne valent pas un clou, que de toute façon je ne vaux rien, hein, que je ne suis pas parfait, et que ceci et que cela, si, que les gens se fichent de ce que je prêche, et que, étant donné que moi je sais en qui j'ai cru, que je sais que je crois dans l'appel que j'ai reçu de notre Seigneur, et que je ne donne pas accès au diable, parce que ça c'est important, la suggestion de cette personne n'aura aucun pouvoir sur moi. Je vais rire de cette personne, je vais même me moquer, je traiterai cette suggestion avec mépris en la ridiculisant, en disant « bon, je prends ça d'où ça vient ». Est-ce que c'est de l'orgueil? Non, mais j'ai conscience de qui je suis dans le Seigneur Jésus-Christ, et je n'ai pas de doute. Je peux être tenté de douter, mais je ne succombe pas à la tentation. Vous comprenez? Alors, en fait, la suggestion d'une telle personne va, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me booster. Elle va me pousser à en faire encore plus. Elle me fera progresser dans le bien. Elle va me booster pour que je fasse encore des progrès, pour que je sois encore mieux. Et le succès va m'accompagner, loin par l'Éternel. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Sinon, je peux dire, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, mais si je suis à côté de la plaque, si je suis pas dans l'obéissance, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Je m'auto-suggestionne avec quelque chose de faux et ma vie est fausse. Vous voyez, il y a deux idées. La mienne et celle de la personne. Et mon subconscient accepte l'idée dominante. Qu'est-ce que c'est votre idée dominante? De vous, de Dieu, de votre famille, qu'est-ce que vous en pensez? L'idée dominante, les règles de Dieu, quelle est votre idée dominante au sujet des règles de Dieu? Oh ben les lois, c'est fait pour être transgressées. La plupart des gens pensent ça. Pas un chrétien. Amen. Écoutez-moi bien. Pour que, pour que les suggestions négatives des gens mal intentionnés ou bêtes, parce que la plupart des gens ne sont pas mal intentionnés, ils sont simplement bêtes, très bêtes. J'aime bien Nicolas, il dit comme ça, ils sont bêtes, de bêtes, de bêtes, de bêtes, de bêtes. Les suggestions, pour que les suggestions d'une personne bête ou mal intentionnée aient de l'efficacité sur moi, il faudrait qu'elle trouve en moi des traces de bêtise ou des traces de crainte. C'est pourquoi Jésus dit à Satan, il n'y a rien, je n'ai rien en moi de toi. Il n'y a rien de toi en moi du tout. Rien. Aucune crainte, aucune peur, aucune méchanceté, aucune bêtise, rien. C'est pourquoi le diable n'avait aucun pouvoir contre lui. Vous savez pourquoi je ne flanche pas? Parce que je me suis aligné sur Jésus-Christ. Alors, c'est une jolie phrase. Parce que je me suis aligné sur le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, s'aligner sur le Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est une jolie phrase religieuse qui peut être complètement vide de sens. Mais maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Chaque soir, quand je me couche, je m'endors du sommeil du juste. Vous allez dire, ah bon, t'es un propre juste? Non, je suis justifié par le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour moi afin de pardonner toutes les fautes que j'ai pu faire. Mais il ne pardonne pas les fautes que j'ai faites exprès de faire et que je sais que je vais faire encore demain. Faut pas se moquer de Dieu non plus. Charles sursaut. Chaque soir, je me couche et je m'endors du sommeil du juste. Il n'y a aucune condamnation contre moi devant le trône de l'Éternel. Le diable ne peut pas m'accuser. C'est que le diable va devant Dieu. Lisez le livre de Job, il se présente devant Dieu, puis il discute le coup. Ben le diable, quand il se présente devant Dieu, Dieu lui dit, t'as vu Michel Janton? Ben ouais, formidable, hein? Ben ouais. C'est pas que je sois sans péché, mais c'est que je mets toutes les choses en règle, je laisse pas le soleil se coucher. Si je suis pas en règle. Je dis pas au soleil de s'arrêter de coucher. Je mets les choses en règle avant qu'il se couche. Donc le diable ne peut pas m'accuser, parce que je me suis mis en ordre avec ma famille, avec ma communauté, avec mes collègues, avec les lois du pays, que je sers avec amour. La France n'est pas mon pays, mais je sers la France avec amour, parce qu'elle m'a reçu avec amour. Toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. J'aime la France. Je pleure pour la France en ce moment. Le diable ne peut pas m'accuser devant Dieu, et l'oiseau. L'animal ailé d'Ecclésiaste 10, la seconde partie de mon esprit, la partie inconsciente, subconsciente, ne rapporte à Dieu que de bonnes choses pendant que je dors. Vous comprenez? Bon, quand on était jeune, on était malléable, on était très impressionnable, on a tous reçu des suggestions de la part de nos parents, de nos professeurs, de nos pasteurs, de nos curés, de nos rabbins, de nos imams, de nos copains, de tout le monde, on a reçu des suggestions. Certaines de ces suggestions nous ont fait du bien parce que c'était positif, et puis d'autres nous ont fait beaucoup de mal. Nous étions enfants, malléables. Nous étions jeunes, nous étions malléables. Nous n'avons pas fait le choix, en fait, parce que nous étions incapables de faire le choix. Choix par rapport à quoi? Alors nous avons accepté des suggestions, toutes sortes de croyances, nous avons accepté le langage de nos parents, de notre pays, les coutumes, les traditions, toutes ces choses-là, de notre famille, notre entourage. Mais nous n'avions pas le choix. Là. Nous avons été endoctrinés. Alors que nous n'avions pas la capacité de discerner, de reconnaître ce qui est vrai de ce qui est faux. Par exemple, vous n'êtes pas né avec une croyance religieuse. Vous n'êtes pas né avec des peurs. Vous êtes né sans défense, vous êtes né ignorant et entièrement à la merci de vos parents, de ceux qui vous ont éduqué. En fait, quand vous êtes né, il n'y avait que deux choses qui vous faisaient peur. Vous savez ce que c'est? Mais ça, tous les psychiatres vous le diront. C'est la peur de la chute et la peur du bruit. Ces deux peurs, en fait, ce sont des systèmes d'alarme de base que Dieu vous a intégrés en vous pour vous protéger. Toutes vos autres peurs, elles vous ont été données par la suite, elles vous ont été suggérées. tout, alors que vous étiez tendre. C'est pourquoi aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous pouvez faire le tri. C'est ça, se convertir. Vous pouvez faire le tri. Vous êtes, en tant qu'adulte, responsable de ce que vous vivez. Beaucoup de gens n'aiment pas entendre ça quand on leur dit « Vous êtes responsable de ce qui vous arrive. » « Ah bon, mais attends, cet accident qui m'est arrivé, c'est comme si vous l'avez attiré. » C'est la loi de l'attraction. Vous êtes responsable de ce que vous vivez et le jugement de Dieu est sur votre vie et il sera juste. Parce que vous êtes responsable. Jusqu'à 12 ans, vous n'êtes pas responsable. C'est vieux comme le monde, hein. Lisez l'Ancien Testament, vous apprendrez. Vous savez, il y a un homme très connu qui a dit « La religion, sans la religion, la science est infirme et la science sans religion est aveugle. » Et c'est vrai, il vous faut savoir. Pas seulement que Zachée était monté sur un arbre, ça ne sert pas à grand-chose. Il vous faut savoir, apprendre des choses. C'est Einstein qui a dit ça, c'est pas n'importe qui quand même. Et il avait raison. Vous savez, le meilleur moyen d'effacer le mal qui est gravé en vous depuis votre temps d'enfance, bien sûr on dit le sang de Jésus nous purifie. Oui c'est vrai, mais par la puissance qui agit en vous, Dieu peut faire au-delà de ce que vous pensez imaginer. Parce que il faut pas dire c'est Jésus qui va le faire et puis vous continuez à faire n'importe quoi. Quand votre papa et votre maman vous apprenez à marcher, vous tenez un petit peu, mais de temps en temps ils vous lâchent un peu parce que c'est à vous de marcher aussi. Eh bien, Dieu fait la même chose, il vous aide un peu, mais après il vous lâche. Et puis, poum, vous tombez sur votre derrière, puis il vous relève, et jusqu'à ce que vous faites, fassiez les choses. Vous devez effacer les choses qui sont gravées, les mauvaises choses sont gravées en vous. La meilleure manière d'effacer quelque chose qui est enregistré en vous, c'est d'en enregistrer une autre par-dessus. Vous rappelez les vieilles cassettes qu'on avait avant? Hein, on enregistrait un disque de... Allez, quelqu'un que j'aime pas, Francis Lalanne. Puis après, on l'aimait pas, alors on effaçait comment? On mettait un bon disque de Sylvie Vartan dessus, puis c'était parfait. C'est juste pour que les chrétiens qui m'aiment pas puissent encore trouver à me critiquer. J'adore. Le meilleur moyen d'effacer quelque chose que vous n'aimez pas en vous, c'est d'en enregistrer une autre par-dessus. Alors, comment? D'abord, il faut reconnaître que ce qui ne conduit pas à la vie éternelle, c'est mauvais. Avant de mettre Sylvie Vartan un bon disque sur une cassette, faut d'abord reconnaître que Francis Lalanne n'en aime pas. Ça, je dis ça pour que vous en souveniez. Comme ça, au moins, vous allez vous souvenir de ça. Reconnaître d'abord que ce qui ne conduit pas à la vie éternelle est mauvais. Ensuite, c'est d'en parler à haute voix à Jésus. C'est ça, confesser. Après avoir reconnu ce qui est mal, et décidez de faire le bien, faites-le! Faites-le! C'est pas une pub qui dit ça, une pub américaine qui dit ça. Fais-le! Et pour que cela ait un impact profond dans ton esprit, prie! 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 Faites une prière dans le genre de celle que je vais vous donner là maintenant. Ne faites pas celle que je vais vous donner maintenant. Ça serait du catholicisme avec des répétitions. Mais faites quelque chose dans cet état d'esprit, dans cette position-là. Quelque chose de spirituel, c'est-à-dire d'intelligent. Parce que vous avez des choses spirituelles, soi-disant spirituelles, qui sont complètement nouilles. Alors voilà une prière qui est bien et qui va pouvoir vous fixer dans les bonnes choses que vous voulez. Dites dans votre prière, « Mon Père qui es aux cieux, ton amour divin comble mon être. » Tu veux mettre en moi la justesse des actes divins. Je crois que l'harmonie divine gouverne ma vie. La paix remplit mon être. Je possède la beauté divine. La joie du Saint-Esprit habite mon être. Tu es mon berger que je veux suivre dans tous les domaines. Je suis éclairé par tout ce qui existe au-dessus de moi, qui est élevé. Je sais et je crois que la volonté de Dieu à mon égard est une grande mesure d'amour, de vérité, de beauté, de bonté et de justice. Je sais que tu me protèges tant que je marche sur le chemin. Jésus, tu es mon chemin. Amen. Mais... Ne faites pas cette prière de foi à n'importe quel moment. Ne la faites pas avant d'avoir reconnu que Francis Lalanne, c'est pas bien. Ne la faites pas cette prière avant d'avoir reconnu vos péchés et avant de les avoir abandonnés. Sinon, elle ne vaut rien et même le diable se présenterait devant Dieu et vous accuserait d'être un hypocrite. Et l'être ailé qui est en vous, votre subconscient, pendant votre sommeil, monterait devant Dieu et dirait « Oui, ô éternel, c'est vraiment un hypocrite. » Vous vous condamnez vous-même. Personne ne vous condamne. Jésus dit, je ne vous condamne pas. Personne ne vous condamne. C'est vous qui vous condamnez vous-même. Et au jour du jugement, le couperet tombera, ça sera définitif. C'est tout. Mes frères et sœurs, ces grandes vérités, si vous les répétez consciemment et honnêtement, elles vont se graver en vous, c'est-à-dire dans votre subconscient qui accepte toujours tout. Et elles vont provoquer une transformation. Ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. On n'est pas chez Mickey ici. Mais il faut que vous rappeliez qu'il n'y a qu'une puissance. Il n'y en a pas deux. Ce que le diable appelle sa puissance n'est qu'un mensonge destructeur qui détruit ceux qui y croient. Les mensonges du diable seront annulés ainsi que tous les imbéciles qui y auront cru. C'est un beau gâchis, mais vaut mieux que ça se fasse une fois pour toutes plutôt qu'on passe l'éternité avec des imbéciles. Dieu dit, il n'y a rien de souillé qui rentrera dans mon royaume. Tout ce que tu ressens de bien ou de mal est attribuable à ta manière dont tu te sers du pouvoir que Dieu a mis en toi, le pouvoir de ton esprit. Il est soit en communion avec le mensonge du diable, qui n'a aucune puissance définitive, ou alors ton esprit est en communion avec le Saint-Esprit, qui est la seule vraie grande puissance. Ton esprit a deux fonctions, une qui est consciente, l'autre dont tu n'as pas conscience, mais qui influence ta vie. Tu peux utiliser ton pouvoir de deux façons, la bonne ou la mauvaise, il n'y en a pas trois. N'est-ce pas que tu es une créature merveilleuse ? David avait raison. « Oh Dieu, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. » Alors, n'abîme pas cette créature si merveilleuse que Dieu a fait de toi. Ne l'abîme pas. Au fait, vous savez ce que ça veut dire abîmer ? Écoutez-moi bien. Abîmer signifie sombrer dans un gouffre profond. Un abîme, c'est quoi ? Il y a une espérance. C'est celle de monter à la rencontre de notre Dieu. Et puis, à l'autre côté, c'est de s'abîmer dans un gouffre infernal. Je vous ai donné une clé ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus, que ta parole porte ses fruits là où il faut et que cela pourrisse là où il faut. Au nom de Jésus, mon Dieu. Amen.